Michel Hazanavicius vient de réaliser son premier long métrage d'animation, La plus précieuse des marchandises, proposé en avant-première du Arras Film Festival, organisé par l'association Plan Séquence. Dans une campagne polonaise enneigée, un modeste couple de bûcherons vit dans une petite maison en bois. En face de leur terrain passe un train de marchandises et tous les jours, la bûcheronne prie pour qu'une des marchandises alimentaires soit déposée pour eux. Alors qu'elle regarde le train passer, une marchandise semble s'être égarée d'un wagon. Réalisant que c'est un nourrisson, la bûcheronne recueille et élève cet enfant comme sa fille, en dépit de son mari qui, peu à peu, se rendra compte de l'importance de ce que l'enfant représente. Un film ambitieux qui traite d'un sujet délicat, plein d'humanité, entretien co-réalisé avec Carole Légevin de Radio Scarpe Sensée et Christian Novicki de L'Avenir de l'Artois, en compagnie du réalisateur, pour évoquer le travail d'adaptation, le casting, mais aussi, entre autres, l'esthétique, propos illustrés par la bande-annonce du film. Michel Hazanavicius, bonjour.
Bonjour.
C'est votre premier long métrage d'animation. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Pourquoi justement ce choix d'avoir choisi l'animation pour ce film?
Alors oui, en effet, c'est mon premier film d'animation. C'est l'adaptation d'un livre de Jean-Claude Grimbert qui est écrit sous la forme d'un conte et qui raconte l'histoire d'un couple de bûcherons qui vit dans la Pologne des années 40, donc pendant la guerre. Ils sont très pauvres, ils vivent dans une forêt, et leur forêt est traversée par des trains, dont on comprend assez vite que ce sont des trains de déportés qui vont vers un camp d'extermination. Et un jour, un enfant, un bébé, est jeté de ce train, et la bûcheronne va récupérer cet enfant. Elle va vouloir le garder, le bûcheron, ça va être plus compliqué. Et le film va raconter l'histoire sous la forme d'un conte de ces destin, celui de la bûcheronne, celui du bûcheron, celui de l'enfant, mais aussi celui de l'homme qui a jeté son enfant pour le sauver, pour lui épargner la destination de ce train. Et voilà, donc c'est une histoire que j'ai trouvée bouleversante en la lisant. C'est ce que me disent aussi les spectateurs quand ils voient le film. Il évoque ce que l'homme et la femme ont de meilleur, mais aussi ce qu'ils ont de pire en eux. Ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de pire, ce dont nous sommes capables. Le pire étant évidemment les camps de la mort qui sont évoqués dans ce film. Le meilleur étant ces personnages de justes, ces gens qui ont, pendant la guerre, sauvé des Juifs et ce faisant, qui ont sauvé l'honneur de l'humanité. Donc c'est un film, même s'il y a un contexte dramatique, c'est un film solaire, c'est un film qui va vers la vie, tout le temps tourné vers la vie. Quand je le résume, je dis que c'est plutôt une pulsion de vie, ce film.
Vous avez été bouleversé par cette histoire et vous ne pouviez l'envisager que sous la forme du dessin animé. C'est ce qui collait le mieux à ce qu'on appelle un conte.
Oui, c'est même au-delà de ça. C'est que l'auteur lui-même, Jean-Claude Grimbert, avait dans l'idée que ce serait un film d'animation. Donc on me l'a même présenté comme ça, mais c'était une évidence. Il n'y a pas eu l'ombre d'une discussion à ce propos. Parce que, comme je vous disais, dans l'histoire, il y a deux pôles. Il y a le pôle du conte, avec des personnages qui n'ont pas de nom, des lieux qui sont presque intemporels et presque indéfinis, même si on sait exactement de quoi il s'agit. Et puis il y a un pôle un peu plus qui s'appuie sur une réalité historique, celle de la guerre, celle des camps, celle du génocide juif. Alors pour ce qui est du conte, évidemment, l'adaptation est totalement adaptée, puisque c'est des images qu'on connaît, que ce soit des illustrations de livres ou que ce soit les premiers Disney. L'univers du conte est souvent associé à l'illustration et à l'image fabriqué, dessiné bien plus que à des êtres humains. C'est-à-dire que quand on pense à une sorcière ou à un ogre ou au petit pousset ou au petit chaperon rouge, on ne pense pas à des êtres humains, on pense plus facilement à des images dessinées ou peintes, suivant les cas. Pour ça, donc, l'animation était évidemment la plus adaptée. Pour ce qui est de la réalité historique et des camps, il y a la problématique de la représentation des camps et de la déportation au cinéma, c'est un véritable sujet. Et effectivement, l'animation est un endroit de narration où la suggestion et l'évocation sont, comment dire, peut-être plus simple. Pour représenter les camps, vous ne pouvez pas représenter ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas représenter la réalité de ce qui s'est passé parce que c'est insupportable et c'est irreprésentable. Et vous ne pourrez jamais représenter l'ampleur de ce qui s'est passé. En revanche, si vous représentez autre chose, si vous racontez autre chose, il y a le risque d'une forme de mensonge, le risque d'une forme d'édulcoration de l'horreur de ces camps. Alors la clé, la voie à suivre, c'est celle de l'évocation, celle de la suggestion, et celle qui fait appel à l'intelligence du spectateur et à sa connaissance des faits. Et pour ça, l'animation, là encore, c'est le meilleur moyen de donner des clés au spectateur sans lui montrer d'image explicite et de lui évoquer, de lui suggérer ce qui s'est passé. Et donc, on n'est ni dans une forme d'obscénité, ni dans une forme de mensonge.
Il y a, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, cet enfant qui est lumière. Il apporte plein de choses. Donc, c'est une belle marchandise qui est offerte par les dieux. Cette évocation des dieux, elle est très importante.
Tous les personnages ont un trajet dans les films. Le bûcheron, lui, au départ, il va être... il reflète l'antisémitisme ambiant, c'est-à-dire il pense que les personnages... Alors dans le film, les juifs ne sont pas appelés les juifs, ils sont appelés les sans-cœur. On ne dit jamais le mot juif, on ne dit jamais le mot nazi, on ne dit jamais le mot Auschwitz, parce que nous sommes dans un
même
conte.
La Pologne, peut-être.
Il y a peut-être le mot Pologne au début, pendant la deuxième... On parle de la Seconde Guerre mondiale, mais on est dans cet univers universel qui est celui des contes. Et alors le bûcheron, lui, va faire ce trajet vers cette petite fille, justement parce que cette petite fille, c'est comme une vague d'amour ou de lumière, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, elle va provoquer comme ça de l'amour sur son passage. La bûcheronne, elle, c'est un petit peu différent parce qu'elle, dès le début, elle veut sauver cet enfant. Mais effectivement, elle va comprendre, et c'est là où on rend hommage au juste. Elle va comprendre que ce n'est pas l'œuvre des dieux, que en fait tout ça c'est l'œuvre des hommes. C'est les hommes qui sauvent les enfants, c'est les hommes qui font le mal, c'est les hommes qui font le bien. Et elle va partir de cette idée que ce sont les dieux du train qui lui ont jeté une petite marchandise, et elle va se rendre compte que non, c'est un homme qui a jeté un enfant d'un train de déportation, et que c'est un autre homme qui a aidé à la sauver, son mari. Et qu'il y a encore un autre homme après qui va l'aider. Et il y a une chèvre qui lui a donné du lait. Et elle va se rendre compte que tout ça, c'est des êtres humains. Pas dans le cas de la chèvre, évidemment, mais tout ça est très concret. Et tout ça est une affaire de choix. Et c'est ce que le film nous raconte, c'est que même dans des situations catastrophiques, même quand on a l'impression que le monde entier part en lambeaux, ou en tous les cas, l'éthique du monde, la morale du monde, on a l'impression qu'elle s'écroule, eh bien on a encore la possibilité de faire des bons choix, et le choix de la dignité.
Vous évoquiez, et c'est un gimmick aussi, c'est un leitmotiv dans le film, les sans-cœurs ont un cœur.
Oui, c'est-à-dire que vous savez, dans tous les génocides, et même, je dois dire, dans toutes les guerres, ça commence toujours par une déshumanisation du peuple que l'on a envie d'exterminer. Ça a été, pour ce qui était des Juifs, c'était les rats, c'était les cancrelats. Pour ce qui est des Tutsis, c'était les cafards. Et il y a toujours l'idée, comme ça, de déshumaniser celui que vous voulez tuer, parce que sinon, ça ferait de vous un assassin. Alors là, la forme littéraire qu'a trouvé Jean-Claude Grimbert, c'est de les appeler des sans-cœurs. À partir du moment où ils n'ont pas de cœur, c'est pas très grave de les tuer, puisque de toute façon, ils n'ont pas de cœur. Et puis, ça permet de dérouler tous les clichés antisémites de l'époque, qui d'ailleurs ont la vie dure, mais en tous les cas, à l'époque, ils étaient très en vogue. Et puis, en fait, ça va être la révélation de ce personnage qui prend cet enfant pour une sans-cœur. Et ben, à un moment donné, il va se rendre compte que les sans-cœurs ont un cœur.
Et les palpitations, d'ailleurs, on les entend dans le film.
Exactement. Il va se rendre compte que cette petite a un cœur. Mais ce qui est très beau, c'est que, en se rendant compte que la petite a un cœur, ce dont il se rend compte réellement, c'est que lui-même a un cœur. C'est de ça dont il va se rendre compte. Et en fait, en acceptant l'humanité de l'autre, il découvre sa propre humanité.
Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour,
ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur!
Donner, recevoir, rendre, avec l'histoire de la chèvre, cette gueule cassée qui dit mais si on n'a pas un petit peu de choses à offrir, eh bien après, même offrir pas grand-chose, on va gagner à offrir ce qu'on n'a pas.
Ce qui est très beau dans le cinéma, c'est que moi, une fois que j'ai terminé mon film, il y a autant de films que de spectateurs. Chaque spectateur, finalement, tout à l'heure, je vous parlais d'évocation, de suggestion. Chaque spectateur, moi je laisse toujours beaucoup de place au spectateur, donc chaque spectateur participe à la narration du film. Effectivement, il y a l'idée de la générosité, l'idée du don de soi, l'idée du sacrifice aussi, parce que la guerre, c'est le sacrifice. Et cette idée est là, elle vous a visiblement touché, si j'ai bien compris. Moi j'aime ce film et j'ai aimé ce livre. Des fois je dis c'est beau dans le film, je parle de la voix de Jean-Claude Grimbert, parce que mon boulot a été vraiment de prolonger la voix de Jean-Claude Grimbert, qui était une voix littéraire, et je l'ai amené au cinéma. Et il y a des choses que j'aime dans le film, je ne me les accapare pas, elles appartiennent à Grimbert. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'elle est très riche. Elle a l'air de rien, elle se déguise en conte pour enfants, et pour autant, elle trimballe des thèmes, des thématiques, épaisse, lourde et très belle. Donc celle-ci vous a touché, tant mieux.
Vous avez évoqué la voix de l'auteur, mais il y a d'autres voix. Quand vous dessinez, quand on dessine un visage, on imagine immédiatement une voix, et ça devait être la voix de Podalydès. Ça devait être aussi Trintignant à un moment donné.
Alors, Trintignant fait la voix du narrateur. Donc, le narrateur est invisible dans le film. Il n'est pas vraiment question de dessin, mais...
Mais elle est intemporelle.
Elle est intemporelle. Voilà. Quand j'ai lu le livre, moi, j'ai eu la sensation de lire un classique.
Ouais.
Et donc, je voulais reproduire ça au cinéma. Et évidemment, qui d'autre que Trintignant pour avoir ce côté intemporel et classique. Trintignant, c'est pour moi la plus belle voix du cinéma français, c'est un grand acteur, et puis c'est aussi un vieil homme qui récite le texte d'un vieil homme et qui, sous la forme d'un conte pour enfants, finalement délivre comme un testament moral, si vous voulez. Donc je trouvais que c'était très très beau de proposer, enfin, que Trintignant accepte de le faire. J'ai été ravi de...
Ça s'est passé comment
J'ai envoyé le texte. Alors, il était déjà aveugle, donc c'est sa femme Marianne qui lui a lu. Il a aimé le texte, il a voulu le faire. J'ai appris avec bonheur qu'il aimait mon travail. Voilà, je suis descendu dans le sud, on a parlé, on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé. Ensuite, il a appris le texte à l'oreille, puisqu'il ne pouvait pas lire. Et puis, on se parlait au téléphone. Et puis, je suis descendu dans le sud pour aller enregistrer dans un studio pas très loin de chez lui. Et voilà, on a enregistré cette voix. C'est la première chose que j'ai faite une fois que j'ai terminé l'écriture du scénario avec Jean-Claude. C'est l'enregistrement de cette voix. Et puis, les autres, écoutez, je voulais garder des dialogues assez littéraires, parce que c'est... justement pour garder l'esprit du conte et l'esprit du conte classique. Et donc j'ai demandé à des acteurs de théâtre, des acteurs qui sont la crème de la crème, si vous voulez, Grégory Gadebois, Dominique Blanc, Denis Podalydès, c'est des immenses acteurs. J'ai eu le bonheur et l'honneur qu'ils acceptent. Et non, vous n'avez pas besoin réellement de, comment dire, que les acteurs ressemblent au personnage. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai un personnage qui est une gueule cassée de la guerre de 14, donc il n'y a pas beaucoup d'acteurs à qui j'aurais pu demander. Et Podalydès est heureusement en bon état. Donc mais c'est vrai que Gadebois, il a ce côté bûcheron comme ça. Dominique Blanc peut ressembler un petit peu, mais c'est surtout la voix qui compte. Mais quand vous avez des grands acteurs comme ça, ça se passe toujours très bien.
Moi, j'aimerais revenir aussi sur l'esthétique. Vous faites vous-même les dessins. Et je trouve que... Alors, peut-être que je me trompe, mais il y a un dessin à la Tardi quand même. Alors, je ne sais pas si ça...
Alors, en fait, ça va un petit peu... C'est un peu, antérieur à Tardi. C'est un dessinateur qui s'appelle Gus Boffin, dont Tardi, je crois, a beaucoup aimé le travail aussi. ce qui n'enlève rien à son style, etc. Mais effectivement, le dessin de Gus Boffa, alors on parle surtout d'un personnage, en l'occurrence, qui est le survivant des camps. Quand on simplifie un petit peu le trait de Gus Boffa, qui est un trait graphite, mine grasse comme ça sur du papier, et qu'on lui donne du trait, ça peut ressembler effectivement à du Tardi. L'ensemble des images ressemble plus à des gravures, plutôt des gravures des années 30, qui sont des gravures un peu d'illustration de contes, etc. Toujours dans cet esprit de faire un film classique et intemporel. J'ai été vers cette image-là, notamment avec mon directeur artistique, Julien Grande. On a opté, au terme d'un processus, on est arrivé sur cette image-là. Par contre, je n'ai pas dessiné tous les dessins, j'ai dessiné que les personnages. C'est déjà une grosse partie, mais j'ai dessiné que les personnages. Par contre, tous les personnages, le moindre figurant, tout le monde.
D'accord. Parce que la conception graphique, elle est hyper intéressante. Je trouve qu'il y a une lumière et je trouve qu'il y a une photo qui est absolument géniale.
Oui, ben je vous remercie. Mais en fait, l'histoire, comme je vous le racontais, elle raconte ce qu'il y a de pire et elle raconte ce qu'il y a de meilleur chez l'homme. Alors, ce qu'il y a de pire, l'image n'est pas forcément très belle, mais pour raconter ce qu'il y a de beau chez l'homme, c'est vrai que je voulais qu'on ait des belles images. Alors entendons-nous, c'est pas moche quand on raconte la partie sombre de l'humanité, mais c'est plus sombre, voilà, c'est plus dur. L'image se durcit et le graphisme suit et évolue en fonction de l'histoire, en essayant de rester cohérent, bien sûr. Mais oui, maintenant, même en 2D, puisque le film est un film en 2D, c'est pas un film 3D comme les films de Pixar, etc. C'est une fabrication beaucoup plus artisanale et beaucoup plus classique. Même maintenant, on a des machines qui permettent quand même de travailler la lumière, qui permettent de travailler quelques textures comme de la brume, comme travailler sur des contre-jours, etc. Donc oui, on a essayé de faire une image qui soit quand même soit belle, quoi.
On pourrait l'imaginer en BD. C'est peut-être un projet ?
Non, pas vraiment. C'est pas un projet. Non, c'est un film d'animation. Il s'accompagne des voix dont on a parlé. Il s'accompagne de la musique d'Alexandre Desplat. Il s'accompagne de ces bruits qui sont les bruits de pas dans la neige, les bruits d'oiseaux, de vent dans les feuilles d'arbres, des bruits de train, des bruits... Voilà,
et des cœurs qui battent.
Et des bruits de cœurs qui battent, exactement. Et donc, non, c'est pas un projet.
Je peux me permettre une dernière question. Ouais. Cette histoire a un rapport avec votre famille, vos origines ?
Alors, l'histoire telle qu'elle est racontée, non. Mais l'histoire du génocide juif, oui, évidemment. Enfin, évidemment. Beaucoup de familles françaises ont un rapport quand même plus ou moins problématique et plus ou moins héroïque avec cette période sombre de la guerre et de l'histoire de France. Dans mon cas, c'était des Juifs d'Europe de l'Est, mes grands-parents. Donc les Juifs ont été pourchassés à travers toute l'Europe. La France n'a pas été épargnée dans cette infamie, je dirais. Donc voilà, par chance, par bonheur, mes grands-parents n'ont pas, été attrapés. Mes parents étaient cachés pendant la guerre. Donc évidemment, c'est un événement qui a compté dans l'histoire de notre famille. Mais je n'ai pas eu de grands-parents déportés. Donc voilà. Mais l'histoire, encore une fois, le sujet du film n'est pas le génocide juif, ne sont pas les camps de concentration. Le sujet du film, c'est les justes. C'est les gens qui ont sauvé l'honneur de l'humanité. C'est des gens qui se sont bien comportés. Et le film est réellement une pulsion de vie. Le film est beau parce qu'il est tout le temps tourné vers la vie. Il raconte ces gens qui ont lutté pour la vie, que ce soit pour la leur, les survivants, ou que ce soit pour celle des autres, les justes. C'est pas du tout un film qui... c'est un film qui apaise, c'est un film qui est apaisé et apaisant.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a partout dans le monde des pauvres bûcherons, des pauvres bûcheronnes ?
Il y a en chacun de nous, un pauvre bûcheron, et en chacun de je vais vous dire, quand vous prenez cette histoire et que vous la racontez en conte, vous enlevez les noms des personnages, vous enlevez le fait que ce soit des Juifs qui ont été massacrés par des Allemands qu'on appelait nazis. Il ne s'agit plus d'Allemands, il ne s'agit plus de nazis, il ne s'agit plus de Juifs. Il s'agit d'hommes et de femmes qui ont massacré des hommes et des femmes. Donc, quand vous créez des archétypes humains comme ça, ce que vous dites aux spectateurs, c'est qu'en chacun de nous, il y a un génocidaire, en chacun de nous, il y a une victime. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en chacun de nous, il y a un juste. Donc évidemment qu'il y a de partout dans le monde des bûcherons et des bûcheronnes, parce que partout dans le monde, il y a des êtres humains, et dans chaque être humain, il y a ça. Mais il faut se méfier, parce que dans chaque être humain, il y a aussi un génocidaire potentiel, et dans chaque être humain, il y a aussi une victime potentielle.
La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius sera sur les écrans français le 20 novembre prochain.